Chapitre 14. Les critiques de l'escalier. Les articles de M. Poincaré sur le traité, ai-je osé dire, sont comme la leçon d'un professeur circonspect qui relève les fautes, petites ou grandes, des bons et des mauvais élèves coupables de s'être mis au labeur, tandis que lui, Deus ex machina, se trouvait philosophiquement les pouces aux portes du nirvana élyséen. J'ai lu avec patience cet universel réquisitoire d'un homme qui, au courant de tout, n'a rien fait et se rattrape à coups de férule sur le dos de ceux qui ont tenté. Chacun sait que les critiques, d'après coup, ont pour principal avantage de nous mettre en état de prévoir ce qui est arrivé. Cela rend la discussion plus aisée. Je ne m'arrête pas au grief de l'homme d'inaction contre les hommes d'action qui ont porté le poids de la bataille. Les colonies qui nous furent attribuées n'ont pas rempli l'attente du chef d'État qui cédait à l'Allemagne avant la guerre les meilleures parties du Congo français découpées à cet effet par M. Caillot. Le traité a été rédigé en français et en anglais simultanément. Louis XIV et Napoléon ne connaissaient de tels documents qu'en français. Quelle puissance d'expansion nous ont-ils laissé comparativement à leurs adversaires? M. Poincaré n'en dit rien. L'idée qu'on ne pouvait refuser un tel hommage aux grands soldats de l'Angleterre et de l'Amérique tombés sur la terre française ne se présente même pas à sa pensée. Un dernier trait, cependant, le plus beau. M. Poincaré voudrait que nous eussions mis au travail sur le traité les diplomates professionnels dont je connais les mérites, mais que je n'ai jamais vu trop avides de responsabilité. Eh bien non, nous n'étions pas de ceux qui n'ambitionnent le pouvoir que pour se dérober à l'action. Et quoi? Quand, après la violation du territoire belge, pour sauver à tout prix ce qui pouvait être sauvé de la France, nous avions subi le front haut les pires horreurs du meurtre, du pillage, du vol, des destructions de villes, de l'asservissement et des déportations de nos combattants, quand nous avions vu tomber 1,5 million de nos fils sur les champs de bataille qui nous avaient rendu presque autant de mutilés, quand l'Angleterre, notre vieil ennemi, avait fait un sacrifice équivalent pour le salut commun, quand l'Italie, qui avait été de la triplice dans les mauvais jours, n'est-ce pas, Crispi, s'était ralliée aux appels de la race, quand le président respecté de la grande République américaine nous avait apporté, après des hésitations, qui nous avait coûté le meilleur de notre sang, l'espoir d'une sanction de droit humain, alors nous nous serions tournés, comme honteux de nous-mêmes, vers les professionnels d'une diplomatie dressée à l'exécution plus qu'à l'initiative, et nous nous serions effondrés derrière un gouvernement de plaidoirie. Non, non, nous ne sommes pas des gens que vous cherchez. Vos diplomates de carrière, que je respecte comme augures, ont été consultés, ainsi qu'ils se devaient, sur tout ce qui pouvait être de leur métier. Ils étaient là pour nous éclairer, dans la mesure de leurs moyens. Mais les responsabilités dont vous voudriez vous décharger sur eux, ce ne peut pas être leur affaire. Ils sont là pour le « comment ». Quand vous leur demandez, pour corser de « oui » et de « non », l'auguste silence, d'où prendront le ressort vos arbitrages du « pour » et du « contre », dans une savante dilution de responsabilité, qui faire? Vous êtes un homme de parole et même de mutisme au besoin, tandis que nous, excusez notre simplesse, nous ne nous sommes engagés dans l'action que pour agir, non pour reculer. Nous pourrons nous tromper, nous n'y manquerons pas, car c'est le sort inévitable de tous les hommes d'action, en particulier de tous ceux qui auront entrepris d'alléger quelque chose des misères humaines. Mais, bien ou mal récompensés, nous aurons accompli une part de la grande tâche d'humanité vivante que les parleurs en rond ne comprendront, ne connaîtront jamais. En ce sens, nous sommes aussi des idéalistes, puisqu'il faut tout avouer, et nous ne craignons pas des maîtres endormeurs le reproche d'idéologie. Je ne vous apprendrai certainement rien en vous disant que dans l'activité politique il y a des fautes qui donnent du crédit, ce qui n'est à l'avantage de personne, pas même du profiteur momentané. Vous a-t-on dit que si nous proposions, comme vous, d'assurer la sécurité de la France, nous prétendions, au risque de difficultés inévitables, que le respect de nos droits s'étaya de toutes parts dans l'ensemble de la civilisation d'un égal respect des droits d'autrui? Vous a-t-on dit qu'à cette parole, le vieux monde, ankylosé dans sa souffrance, avait soudainement tressailli? Et pouvez-vous croire que votre jeu de diplomate exorbité se fût imposé dans les heures périlleuses aux coryphées du droit humain accourus à l'appel de la République française? Moi, je vous dis non, parce que j'ai vécu ces heures douloureuses où les droits s'affrontaient et où il ne fallait pas moins que l'autorité libératrice des grandes puissances réunies pour dire, avec une efficacité suffisante, ce qui serait et ce qui ne serait pas. L'appel au droit veut des juges. La France, l'Angleterre, l'Allemagne avaient payé de leur sang leur droit à cette haute fonction. Elles pouvaient dicter des formes de justice devant lesquelles s'inclinerait l'Europe en voie de se reformer. Ainsi va le cours des civilisations. Il n'est pas sûr que les peuples victimes des conquérants fussent accourus à l'appel de votre chère diplomatie, qui avait sanctionné tour à tour les méfaits dont les vaincus des jours anciens attendaient la réparation. Et surtout, je ne crois pas que l'Angleterre et l'Amérique, qui, au moins, font ce qu'elles font, eussent consenti à s'en remettre à des chefs d'inaction pour la besogne effective en vue de laquelle elles avaient été choisies. Nous serions restés fort penauds dans les remous d'une tentative inavouable pour nous esquiver. Nous ne nous sommes pas dérobés, monsieur le Président, voilà le plus clair de notre crime. Au premier rang de la civilisation, les alliés qui venaient de verser leur sang pour sauver le droit ont pensé que leur premier devoir était, dans la mesure du possible, de l'organiser. Le succès couronnera-t-il leur effort? C'est le secret de la destinée. Au moins aurons-nous voulu, nous serons-nous efforcés. Si vous jugez aujourd'hui, comme moi, la politique de mutilation du traité, dont vous êtes aussi responsable que tout autre, je puis au moins vous apprendre qu'il n'y a pas une défaite du droit qui ne contienne pour l'avenir les éléments d'une réaction de succès. Et si bien qu'il suffit d'être du bon côté de la barricade pour se trouver en fin de compte étayé de l'événement. Peut-être le maréchal Foch sentait-il cela, comme moi-même. Seulement sa barricade était de pierre qu'un obus d'avion fait voler en éclats. La mienne était d'un développement de l'homme que rien ne peut surmonter. Nous n'avions pu gagner la guerre que par la réunion de quatre grands peuples. Nous ne pouvions faire la paix que par l'accord de quatre gouvernements qui n'avaient pas nécessairement et pour cause les mêmes vues sur la meilleure manière de faire une Europe de droit. Cela exaspérait notre généralissime qui se préoccupait assez naturellement de finir sa guerre par une paix de sa façon plutôt que par des partages d'équité entre des peuples qui jusque-là n'avaient su que s'entretuer. C'était pour Foch une idée insupportable qu'à lui, le soldat vainqueur, de simples chefs d'État puissent imposer leur vue. Et comme c'était avec moi qu'il discutait d'abord, après avoir subi des influences qui ne m'étaient pas inconnues, je recevais l'honneur du premier coup. Ainsi, la paix me mettait en bataille de tous les côtés à la fois. Le maréchal, dont les inspirations simplistes ne permettaient d'envisager que l'aspect militaire du problème de la paix, tenait pour une solution décisive l'annexion de la Rhénanie. De même, l'empereur Guillaume Ier, dans une lettre qui est aux archives des affaires étrangères, prétendait justifier l'annexion de l'Alsace en alléguant que l'Allemagne avait besoin d'un glacis sur le Rhin. On n'a pas vu que le glacis alsacien ait permis au petit-fils de maintenir la conquête de l'aïeul. Depuis les temps les plus lointains, les guerriers de tout pays n'ont connu qu'un système d'annexion pour politique de défense agressive, et cette conception d'une organisation de déséquilibre militaire n'a fait qu'entretenir les habitudes belliqueuses qu'on annonçait l'intention d'abolir. C'est ainsi qu'on a mis l'Europe dans un état anarchique, d'où l'heureuse issue de notre grande guerre pouvait permettre de la sauver. Jamais peut-être dans l'histoire, situation plus favorable ne s'était rencontrée pour une telle tentative. Notre audace commune fut d'essayer de faire une Europe de droit international. Nous osâmes tenter le sort. Trop grande, la victoire d'un seul engendre rarement une paix d'équité. La victoire de plusieurs engage plutôt à rechercher des approximations de justice où chacun peut mettre à l'épreuve les ressources de son génie particulier. Hier, c'était la première fois qu'une œuvre de haute justice internationale était impartialement mise sur le chantier. On vit les peuples, à qui l'histoire avait été si dure, venir à la barre des vainqueurs pour demander justice, apporter leurs doléances, invoqué la charité du genre humain. Et, dans la mesure du possible, après d'émouvants débats, des réparations notables furent accordées. Oui, jusqu'à nous sont venues les plaintes déchirantes de peuples civilisés en proie à de cruelles tortures, et nous les avons écoutées parce que nous avions payé chèrement le droit heureux de les libérer. Et cette œuvre, nous l'avons accomplie, dans une appréciable mesure, avec le contentement de n'avoir rien ajouté aux maux des sociétés humaines, avec la conscience même d'avoir aidé les faibles en restreignant les abus historiques d'efforts. Tout le monde ne l'a pas compris. Nous n'en avons pas moins fait une grande œuvre en restaurant l'idée du droit aux réparations d'un passé douloureux. Le problème fut moins de tracer des frontières que d'attendre dans la paix des hommes d'État futurs des achèvements de volonté dignes de ceux qui avaient permis de gagner la guerre. M. Wilson, idéaliste pragmatique, jouait toute sa partie sur la société des nations accommodée au postulat d'une politique américaine qui n'échoua devant le Sénat de Washington que parce que le président n'accepta pas d'inoffensives transactions. Il est plus facile de réformer autrui que soi-même. Avec nous, cependant, tous ces plénipotentiaires de toute provenance et de toute formation mentale ont pu faire approximativement un plan de reconstruction européenne et remédier tant bien que mal au plus vif, au plus cuisant des blessures du passé. Tous ont fait de leur mieux. Avec nous, si nous demeurons dignes de notre victoire, ils se maintiendront peut-être à la hauteur de la grande œuvre. Pour l'heure, nous n'en pouvons dire davantage. M. Poincaré, qui est au fond le meilleur élève de M. Briand, n'aurait jamais parlé comme M. Lord George, professant qu'à partir de l'armistice, l'inimitié traditionnelle de l'Angleterre et de la France devait reprendre son cours. Mais sa faute capitale fut de chercher dans l'Europe nouvelle un autre groupement de forces que celui qui venait de triompher. Sans doute, à cet égard, ni l'Amérique ni l'Angleterre n'ont donné le bon exemple, mais nous aurions pu les rappeler au devoir au lieu de nous oublier. Bien que nous n'eussions pas reçu d'autres avantages territoriaux que la restitution inévitable de l'Alsace-Lorraine, l'Angleterre et l'Amérique n'ont peut-être pas vu sans réagir que M. Poincaré préférait à leur garantie militaire la mainmise sur la Rhénanie. Je ne cacherai pas que j'en fus moi-même ébahi. Peut-être était-ce un sujet d'étonnement légitime de voir nos amis se porter de premier élan au rétablissement de la terre allemande d'où étaient parties les dévastations systématiques de la terre française ramenées 4 années durant à l'état de sauvagerie. Il est bien entendu que je ne blâme pas le sentiment, il devait venir, mais il est venu avant son heure. Tout ce qui s'en est suivi a montré que le rapprochement avec l'adversaire était dans les desseins de nos anciens alliés, lesquels, sans trop s'inquiéter des répercussions inévitables, laissaient l'Allemagne organiser la violation de tous les articles du traité sans lui en demander compte. Jour par jour, heure par heure, pendant 1 an, nous avions travaillé péniblement à une œuvre ingrate dont les parties constructives menaçaient à tout moment de s'écrouler sous l'effort des revendications contradictoires surgissant de tous côtés. Chacun cherchait à se pourvoir. Les grands sentiments ont parfois de pauvres dessous. Dans le raccourci de mon temps, les occasions ne m'ont pas manqué, sans retourner à l'école, de compléter mon éducation. C'est ainsi que, lorsque le maréchal me demanda de lui adjoindre un fonctionnaire du Quai d'Orsay pour lui permettre de traiter directement avec les Allemands la question de la paix, je ne pus voir dans cette requête qu'une invitation à me dessaisir en sa faveur de l'autorité de ma fonction, réduite à communiquer aux alliés, qui d'ailleurs ne se seraient pas laissés faire, les décisions du soldat mises en forme par un diplomate à lui subordonné. Pas un moment je ne fus disposé à me laisser ainsi dépouiller de mes attributions. Qu'il se lève, celui qui m'en blâmera. D'ailleurs, toutes les questions soulevées par l'issue de la guerre étaient connexes et ne pouvaient se résoudre que selon des rapports de correspondance internationale après délibération. L'Allemagne avait trop pris pour n'être pas condamnée à rendre. Et comment refuser le droit d'annexion à l'un si l'on a commencé par l'affirmer en faveur de l'autre ? Confiant dans la grandeur de l'entreprise que nous avions la témérité d'engager pour obtenir une paix durable en mettant la force au service du droit, nous poursuivîmes notre tâche parmi les criailleries de ceux qui avaient manqué l'occasion de vaincre et ne nous le pardonnaient pas. On conviendra peut-être que ce qui nous fait faute aujourd'hui, c'est tout autre chose que la Rhénanie, puisque nous la tenons encore et que les difficultés ne nous manquent pas. Pour le maréchal Foch, il vivait dans l'amertume de sa déconvenue, comme son mémorial en fait foi. Il me semble qu'ayant reçu la charge de gagner la guerre et l'ayant gagnée, la gloire en aurait pu suffire à sa légitime ambition, sans qu'il lui incombât d'autres missions dans la rénovation pacifique de l'Europe que de donner son avis sur des dispositions de frontières, le cas échéant. J'ai déjà dit qu'il ne s'était jamais plaint que j'ai tenté de lui imposer mes vues sur une décision d'ordre militaire. D'où lui serait venu son droit d'imposer au gouvernement français, seul qualifié pour traiter avec des gouvernements étrangers, des décisions de politique générale, pour laquelle jamais homme d'ailleurs ne fut moins désigné. Tout bien considéré, le thème du soldat sur la Rhénanie était de l'inspiration naturelle des gouvernements d'autocratie militaire, et personne ne peut s'étonner qu'un vainqueur cède à l'envie de prendre des territoires. Mais il faut la mesure en tout, et il n'est pas permis de dire que le traité est mauvais, très mauvais, parce que nous n'avions pas historiquement justifié le rapt germanique de 1871 en annexant, après notre victoire, un territoire allemand. J'ai remarqué d'ailleurs que M. Poincaré occupait, tout en clamant, qu'il n'annexait pas et que le maréchal Foch, sans trop se défendre sur ce point, préférait un autre sujet de conversation. Lorsque j'avais annoncé officiellement au général qu'il était nommé maréchal de France, il m'écrivit une lettre de remerciement plus qu'aimable. Le mémorial s'est bien gardé de la publier. Il me sera permis de réparer cette négligence pour montrer jusqu'à quel point une gratitude débordante emportait alors la plume du maréchal. Voilà les documents. Paris, 9 août 1918. Monsieur le Président, le décret du 24 décembre 1916 a fait revivre une première fois la dignité de maréchal de France. J'ai l'honneur de soumettre à votre signature, au nom du gouvernement, et je peux l'affirmer au nom de toute la France, un décret conférant au général Foch cette haute récompense nationale. À l'heure où l'ennemi, par une offensive formidable sur un front de 100 kilomètres, comptait arracher la décision et nous imposer cette paix allemande qui marquerait l'asservissement du monde, le général Foch et ses admirables soldats l'ont vaincu. Paris dégagé, Soissons et Château-Thierry reconquis de haute lutte, plus de 200 villages délivrés, 35 000 prisonniers, 700 canons capturés, les espoirs hautement proclamés par l'ennemi avant son attaque écroulés, les glorieuses armées alliées jetées d'un seul élan victorieux des bords de la Marne aux rives de l'Aisne, tels sont les résultats d'une manœuvre aussi habilement conçue par le haut commandement que superbement exécutée par des chefs incomparables. La confiance placée par la République et par tous les alliés dans le vainqueur des marais de Saint-Gond, dans le chef illustre de l'Isère et de la Somme, a été pleinement justifiée. La dignité de maréchal de France, conférée au général Foch, ne sera pas d'ailleurs une récompense pour les services passés, elle consacrera mieux encore dans l'avenir l'autorité du grand homme de guerre appelé à conduire les armées de l'Entente à la victoire définitive. Signé Georges Clémenceau. Décret. Article 1er. Le général de division Foch, Ferdinand, est nommé maréchal de France. Article 2. Le ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Signé le président de la République française, Raymond Poincaré. Ci-dessous, la réponse du maréchal Foch. Commandement en chef des armées alliées, le 6 août 1818, le général. Monsieur le Président, je reçois le précieux autographe que vous m'envoyez. Par le signataire, par les sentiments que représente ce signataire, il augmente pour moi la valeur de la récompense que vous voulez bien me faire accorder. Il constituera un titre de noblesse précieusement conservé dans ma famille. Croyez, Monsieur le Président, à mon profond et bien attaché respect. Signé Foch. Mais quelle aventure quand, en 1922, partant pour l'Amérique où j'allais défendre la France contre les accusations de militarisme, je lus dans le New York Tribune un interview du maréchal Foch ainsi conçu. Clémenceau va là-bas pleurnicher et faire du sentiment comme un vieillard qu'il est. Si je pouvais lui donner un conseil, je lui dirais « Restez chez vous », mais il n'a pas pris mon avis. Clémenceau me rappelle Guillaume II. Guillaume II a perdu la guerre et maintenant il essaie, notamment aux États-Unis, de se justifier dans ses mémoires. Clémenceau a perdu la paix. Son apologie n'aurait que peu de succès en France. Il espère en avoir plus aux États-Unis. Il va dire aux Américains « Vous êtes vraiment méchants. Pourquoi n'avez-vous pas ratifié mon traité ?» Les Américains lui répondront probablement « Pourquoi nous parlez-vous de cela? Nous avons chassé l'administration qu'il a signée. Pourquoi n'êtes-vous pas mieux informé de notre véritable opinion ?» Ce voyage est une entreprise de réclame personnelle. Il est dépourvu de toute utilité pratique. New York Tribune, 18 octobre 1922. Quand la campagne anti-française aux États-Unis commença, sous l'inspiration allemande, par de violentes réprobations de notre prétendu militarisme, j'en éprouvai une telle indignation que je résolus d'aller sur place porter témoignage pour mon pays. Sous la signature d'André Tardieu, l'Écho national, 12 octobre 1922, avait publié ce qui suit. L'Écho national a reproduit des articles par lesquels le New York Times et le New York World ont relevé sévèrement l'attaque dirigée par M. le maréchal Foch contre M. Clémenceau à l'occasion de son voyage en Amérique. Nous avons reçu depuis le texte de cette attaque. C'est une interview de l'ancien commandant en chef des armées alliées publiée par le New York Tribune. Comme l'écrivait un journal américain, M. le maréchal est devenu le jouet des politiciens. Il est à plaindre. Son interview est le digne pendant du communiqué officiellement remis par le Quai d'Orsay à la presse américaine et que, je rappelle, le gouvernement actuel n'a donné aucune mission à M. Clémenceau. Il lui a dit « Dieu vous bénisse, bon voyage ». M. Maréchal Foch a voulu faire plus et mieux que les agents de M. Poincaré. Ignorant tout de mes intentions, sans avoir la moindre notion de ce que j'allais dire, ce commandant en chef, dans les termes fâcheux pour lui que je viens de citer, invitait véhémentement les Américains à refuser de m'entendre. Pour les hommes qui les commettent, de telles fautes, tôt ou tard, doivent s'expier. Puisqu'on m'y oblige, je demande une fois de plus où serait le maréchal Foch aujourd'hui si je ne l'avais deux fois sauvé par la peau du cou. C'était, en moins bon style, le fond d'une longue diatribe de M. Joseph Caillaux, condamné pour intelligence avec l'ennemi, contre les imperfections de mon caractère. Seulement, les vituperations du condamné de la haute cour avaient une raison d'être, puisque je l'avais fait mettre hors de cause par les lois de mon pays. Comment le maréchal ne comprit-il pas que la rencontre de ces deux noms, Foch, Caillaux, était pour lui un assez cruel châtiment? Je fis le voyage en dépit d'eux et de la Ligue allemande d'Amérique, auquel j'ai le regret d'adjoindre, pour l'impertinence de ses adieux, M. Poincaré, caché derrière ses bureaux. En Amérique, je défendis la cause de la France sans que personne me dît un seul mot de cette aventure. Je la mentionne simplement ici pour la bonne tenue des comptes. Le maréchal ne s'est probablement pas douté qu'il fournissait en sa personne un exemple frappant des périls du militarisme français, si vivement combattu par la presse américaine. Il est vrai que de telles considérations ne semblent pas s'être jamais présentées à son esprit. Le maréchal Foch avait fait aux États-Unis un voyage de simple parade. Sachant trop bien que l'Amérique tout entière était hostile à sa mainmise sur la Rhénanie, il s'était bien gardé de dire qu'il voulait l'annexer. Il n'aurait pas trouvé un homme pour l'approuver. Depuis ce temps, je voudrais savoir comment Foch, si impérieux devant nous, gouvernement de la victoire, a porté le souci de notre défense militaire. Doctrinaire du tout ou rien, plus que personne, il avait le droit et le devoir d'avertir les parties responsables, prontes à fermer les yeux pour ne rien voir. Qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait au Conseil supérieur de la guerre pour maintenir nos avantages en voyant chaque jour les maîtres de la politique nouvelle réduire systématiquement les trop justes revendications de la victoire devant l'arrogance croissante des vaincus? Car s'il s'était borné à des récriminations rétrospectives, ce ne serait pas assez pour seconder l'effort du futur commandant en chef qui, quelques jours peut-être, lui succédera devant l'ennemi. Où seront dans ce temps-là nos alliés? L'Angleterre voit le péril, mais n'est peut-être pas en disposition d'y parer par des actes qui pourraient dès à présent l'engager. l'Amérique ne songe même pas à s'excuser de se lancer dans une exploitation financière de l'Europe en manière de colonie économique. Et nous, que faisons-nous pour nous-mêmes en dehors des sempiternelles plaidoiries du gouvernement? Vous vous souvient-il de l'apologue par lequel Démosthène cherchait à réveiller l'attention de ses auditeurs qui n'écoutaient pas ses révélations sur l'activité belliqueuse du Macédonien? Un jour, Cérès avec l'anguille et Prognée l'hirondelle voyageaient de compagnie. Un fleuve les arrête, le Rhin de ce temps-là. L'anguille se jette à la nage et l'oiseau franchit l'eau d'un coup d'aile. « Et Cérès, que fit-elle ? » s'exclama le peuple réveillé. « Ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi, de conte d'enfant, son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?» Eh oui, voilà une question bien posée. Demandons-nous ce que Philippe fait. Et si nous n'entendons pas nous offrir à sa conquête, organisons nos moyens de défense au lieu de les lui livrer. M. Poincaré lui-même, sous les accusations accablantes de l'évidence, ne reconnaît-il pas que ceux-là même qui avaient nettement proclamé l'insuffisance du traité ont été les premiers à le ruiner? De cette lamentable aventure, l'histoire demandera des comptes. On pourra comparer le silence du maréchal avec la violente rhétorique de revendication de la Rhénanie. À juger les faits du jour, j'en éprouve une déception plus grande qu'à entendre vanter la vertu intangible du fameux glacis stratégique à tout faire. Pour moi qui m'attribue, sans la permission de personne, le droit de juger hommes et choses en ma simple qualité de patriote français, je n'ai pas encore pu m'habituer à voir la main de certains gouvernants dans celle d'hommes justement condamnés pour cause insigne d'impatriotisme en décomposition. Cela est un peu plus grave que les fautes qui me sont reprochées par le maréchal, lequel n'a jamais demandé compte de faiblesses patentes à certains de ses amis. Comment n'en a-t-il pas été révolté ?